Bonjour à tous. J'ai eu quelques aventures entre mi-octobre et le 1er novembre concernant la question de l'eau usée, des toilettes bouchées. Et puis alors le pire, c'était une canalisation communale qui a éclaté au beau milieu de ma vigne. Je savais même pas qu'elle passait là-dessous. Donc tout le village du haut de Corzeau et du bas de Chardonne n'avait plus d'eau. Je vous explique pas le fleuve d'eau vive qui sortait de cette vigne, impressionnant. Et puis je me suis dit, mais c'est quand même tellement important l'eau. Alors j'ai regardé dans la Bible et j'ai trouvé qu'il y avait 100, en tout cas 150 ou 250 références à l'eau, sans parler des rivières, des fleuves, etc. Alors j'ai bricolé une sorte de truc avec différentes références. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur le texte tellement connu de la Samaritaine, de Jésus et la Samaritaine. Je me suis dit, non, mais pas ça. On la connaît celle-là. Alors, et finalement, l'esprit m'a rappelé à ce texte qu'on va traiter en trois parties. Alors, merci Saint-Esprit de renouveler notre compréhension de ce texte et d'ouvrir une nouvelle porte dans ta parole, dans nos cœurs. Alors, la première partie se trouve dans Jean 4, 6 à 15, que je vais lire. Voilà. Alors, je pense que je n'ai pas la même version, mais ça ne fait rien. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre commun Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Le titre de ce message, c'est Donne-moi cette eau, Seigneur. Avez-vous, comme moi, déjà égaré votre iPhone? Avez-vous, comme moi, déjà perdu vos clés? Avez-vous, comme moi, eu une panne d'ordinateur? Ou laissé votre clé au compteur de votre scooter ou de votre voiture et les voir disparu le lendemain? Ça m'est arrivé pour les deux. Vous êtes-vous, comme moi, fait subtiliser dans un métro à Kiev votre porte-monnaie, votre postcard et votre carte d'identité? Je ne m'attarde pas sur les miracles qui s'en sont suivis. Il vous suffit de lire l'évangile de Saint François aux éditions Inconscience. L'iPhone, les clés, l'ordi, la postcard, la carte d'identité, la voiture, une fois disparus, ils deviennent tout à coup indispensables comme notre respiration. Sans eux, ma sécurité, mes relations, ma mobilité, mes besoins de pouvoir payer en cash, enfin plutôt en cash virtuel, tout cela m'exclut du monde des vivants. Une autre question, avez-vous déjà eu soif ? Drôle de question. Il suffit d'ouvrir le robinet pour voir cette eau qui descend de nos montagnes, qui est captée, canalisée, distribuée jusque dans nos appartements pour pouvoir nous désaltérer. À part Bussigny, paraît-il, où l'eau est jaune et parce qu'elle est pleine de rouille. Alors faites attention quand même pour ceux de Bussigny. C'est un reportage de la télé qui nous l'apprend. Le puits de Jacob représente donc, pour nous occidentaux, nos besoins matériels urgents. Il faut creuser toujours plus profond dans la terre pour puiser les composants indispensables pour nos gadgets électroniques. Il faut creuser toujours plus profond pour trouver du pétrole ou du gaz pour notre énergie et pour nos transports, quitte à épuiser notre planète de ses ressources naturelles. Mais pour des centaines de millions de personnes, le puits de Jacob, c'est aussi le déplacement douloureux pour survivre, sachant que pendant que nous regardons notre bleu Léman, qui est la plus grande source naturelle d'eau d'Europe, chaque jour, des gens tentent de s'apprivoisonner pour survivre, alors que nous nous contemplons notre beau lac Léman, le plus grand réservoir d'eau d'Europe. Le texte que nous venons de lire nous présente Jésus. J'ai un peu de problème là avec la... Ah non, ça là, ça va. Assis en pleine chaleur, au bord d'un puits, assoiffé et sans aucun moyen pour puiser de l'eau. Il se présente à cette femme dans sa plus radicale humanité, sa faiblesse, sa vulnérabilité, sa fatigue. Face à lui, une femme mûre, dont la présence aux heures chaudes de la nuit témoigne qu'elle a des rapports avec la société dans laquelle elle vit qui sont un peu houleux, puisque le puits est un endroit social où, à cette époque, on se réunit tôt le matin, à la fraîcheur du matin ou du soir, tous, et on se rencontre et on se sociabilise. Donc, rencontre complètement incongrue entre un Jésus incognito et une Samaritaine qui est une figure un peu marginale de la condition féminine complexe que parfois nous rencontrons aussi aujourd'hui. Cette femme est aussi porteuse d'une culture rejetée par les Juifs. Les Samaritains retenaient les 5 premiers livres de la loi, le Pentateuch, et il le mélangeait avec des superstitions païennes. Donc cette femme vit une sorte de mixité ethnique. Disons-le d'emblée, le dialogue entamé par Jésus est parsemé de malentendus successifs. À la demande de Jésus, « Donne-moi à boire, s'il te plaît », c'est pas dans le texte, la femme samaritaine répartit. Elle a cette parade où ressort son complexe religieux vis-à-vis des Juifs. Comment, toi qui es juif, oses-tu me demander à boire alors que nous sommes samaritains ? Et alors arrive ce fameux verset 10, si on pouvait laisser le texte, ça m'arrangerait, parce que où Jésus lui dit, merci. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus va inverser les rôles. De quémandeur, il va devenir le don de Dieu. Dans cette société proche-orientale où l'eau a une telle importance, le terme d'eau vive est synonyme de vie éternelle, de plénitude. Le psalmiste compare la présence de Dieu comme une sorte désaltération absolue, si on peut remettre pour son âme, si on peut mettre les deux psaumes que j'ai retenus. Est-ce que tu les as en même temps? Il s'agit du psaume 23, 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près d'eaux paisibles. Et puis le suivant, tu l'as. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà. Et puis, dans psaume 42, versets 2 à 3, « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me... Ah, mais c'est pas celui-là. Quand je marcherai entre... Non, j'ai dû me tromper. C'était plutôt... Bon, ou alors juste avant. Est-ce que tu... Juste avant le verset 1, je pense qu'on a une... Ouais, 42, 1, si tu me le retrouves. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et puis nous avons lu. Donc, Jésus aborde la question de l'eau vive dans un terme spirituel, mais la femme samaritaine est incapable de dépasser la compréhension littérale des paroles de Jésus. Elle refuse aussi de se laisser entraîner dans ces sortes de descriptions spirituelles. Elle a l'air de lui dire « Pour qui me prends-tu? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob ?» C'était leur point commun entre juifs et samaritains. Alors Jésus va donc préciser son offre, si on peut mettre le verset 13 et 14. Il va distinguer l'eau naturelle avec l'eau qu'il propose. Jésus dit « Mais quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et surtout, il détourne, il refuse d'entrer dans une concurrence avec Jacob. Cette eau vive, cette source jaillissante en vie éternelle, c'est la réponse de Dieu. Il est cette réponse, non pas pour nos besoins matériels qu'on a vus tout à l'heure et immédiats, mais pour nos besoins profonds, nos états d'âme enfuis, nos héritages émotionnels brisés, nos blessures affectives ou nos états d'âme enfuis. Alors surgit ce cri, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que ma condition féminine soit allégée, pour que je n'aie plus besoin d'aller au puits chaque jour. » Et Jésus est obligé de constater l'échec de sa communication avec cette femme qui continue de comprendre cette eau vive comme une dimension matérielle. Alors on va lire la suite du verset 16 à 26. Alors Jésus va changer de stratégie. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. » Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure n'est pas, viens où il ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. » Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus entre dans un autre terrain, celui du contexte intime de la vie de la Samaritaine. Va chercher ton mari et amène-le ici. Cette injonction vise à ouvrir la compréhension et la conduite profonde de la vie personnelle profonde. Le type qui tue sa femme, le djihadiste qui pose une bombe, tous ses collègues, ses voisins, ses amis vous diront « mais un type correct, qui nous salue dans la rue, dévoué, sympa, discret, travailleur. Qu'est-ce qui se cache derrière le masque de notre humanité ? Un secret ? Une blessure peut-être ? De la souffrance, des frustrations ? Entre l'image publique que je donne et l'état de mon âme, il y a parfois un abîme. Et par cette question, Jésus, avec son discernement, traverse ce fossé entre l'image et sa carapace. « Je n'ai pas de mari », lui répond la femme. Et cette confession est courageuse. Dans la société de l'époque, vivre sans mari est une honte. Dès l'âge de la puberté de la jeune fille, les familles de cette jeune fille n'ont qu'une préoccupation, la marier absolument au plus vite. Célibataire, une femme n'a plus de statut social, c'est une marginale. Et Jésus va lui dire, tu as raison. Il va quelque part, en lui disant ça, il l'encourage et il ne la juge pas. En révélant son passé, c'est juste, tu as raison, tu as 5 divorces et un adultère. Mais il rajoute, en cela tu dis la vérité. Et face à ce dévoilement, la femme samaritaine se sent aimée. Elle se sent malgré tout respectée dans sa dignité de femme. Et je crois que là, il y a une clé que personnellement, j'ai parfois beaucoup de peine à ouvrir. Quand nous sommes face à des gens tellement différents, avec une vie tellement différente de la nôtre par rapport à notre propre moralité, on a parfois peur de rencontrer ces gens. Et Jésus nous dit ce matin, mais n'ayez pas peur, je vous donne un discernement de l'esprit pour que vous puissiez communiquer avec elle, sans jugement, mais avec amour. Et je prie que pour chacun d'entre nous, chaque fois que nous nous retrouvons avec ce type de personne, nous puissions recevoir par le Saint-Esprit cette clé qui permet au cœur de notre interlocuteur ou interlocutrice de s'ouvrir. Alors la femme, tout d'un coup, elle le fait passer de Seigneur à homme de Dieu. Jésus devient un homme de Dieu, un prophète. Et probablement que pour la première fois de sa vie et de son vécu avec les hommes, elle se sent aimée et respectée. Seulement, c'est une véritable championne de la dialectique. Elle esquive, elle attire Jésus sur le terrain des questions religieuses. Ah, souvent dans les dialogues que nous avons avec des gens qui ne sont pas forcément chrétiens comme nous, le piège à éviter, ces questions religieuses. Oui, mais alors le Dieu protestant, et puis par rapport au Dieu catholique, ouf, misère. Ou alors, oui, on a tous une part de vérité en nous, qu'on soit bouddhiste, Krishna, musulman ou chrétien. Là aussi, Jésus, il a une clé pour nous, dans notre monde contemporain. « Femme, crois-moi. » Nous sommes à une heure où les traditions religieuses n'ont plus de valeur. Faut-il adorer à Jérusalem, au bord du fleuve Gange ? Faut-il aller au Mont Garizim ? Faut-il aller à la Mecque ? Non, l'adoration aujourd'hui, Elle est du domaine de l'Esprit de Dieu et elle nous fait entrer dans toute la vérité. Alors la femme, elle tente un dernier sursaut. La question ultime, la fin des temps, c'est assez d'actualité en ce moment. Le Messie qui vient, le Christ. Je le suis, moi qui te parle. Et je pense qu'en étant aimée, respectée, cette simple parole la traverse. Et au-delà des quelques mots, il y a cet amour de Dieu, de la personne de Jésus, qui amène cette femme à capituler. Alors on va lire encore la dernière partie, dans Jean 4, 28 à 30 d'abord. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, retenez bien ce geste, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ensuite, versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le retrouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Elle disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et puis, encore un autre texte dans Actes 8. Là, on est dans la post-Pentecôte. Il y a eu la persécution d'Étienne, l'Église est dispersée. Et Philippe descend dans une ville de Samarie. Il y prêche le Christ. Les foules tout entières sont attentives à ce que dit Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, poussaient des gens à un grand cri, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Alors j'aimerais d'abord revenir à ce geste de la Samaritaine. Elle déposa sa cruche. Autrement dit, elle dépose le fardeau, le poids de sa condition de femme discriminée, mais aussi peut-être le poids de sa tradition spirituelle. Et j'aimerais ce matin m'adresser, elles sont probablement peu nombreuses, voire absentes dans cette église, à toutes ces femmes du 21e siècle, dont on entend beaucoup parler. La plupart sont silencieuses. Certaines sont de plus en plus, et c'est peut-être bien, porteuses d'une parole de liberté, dénonciatrice, voire colérique. Ce matin, Jésus, cet incognito, s'adresse à toi, à vous, femme du 21e siècle. Il est le seul à pouvoir te donner cette liberté que tu revendiques, à enlever le poids de cette cruche qui t'amène à la lutte quotidienne, à l'épuisement de ta condition de femme. Laisse-moi te rafraîchir, te dit Jésus. Laisse-moi t'arroser, laisse-moi t'inonder. Je suis la source d'eau vive. Je suis le fleuve d'eau vive qui jaillit du trône de Dieu jusque dans la vie éternelle pour toi. Alors, échange tes revendications avec ce cri de la Samaritaine. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, donne-moi cette eau. Et j'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier pour vous, femme du 21e siècle, et que ce message soit peut-être transmis à certaines que cela concerne de la part de l'Église. Merci Seigneur pour qui tu es. Et même si ce matin nous devinons, nous pressentons qu'il y a une dimension que nous avons déjà expérimentée et qui doit encore produire beaucoup plus de vagues de l'esprit dans nos propres cœurs, nous voulons aussi te prier en tant qu'Église pour tous ceux et celles qui vivent dans une sorte de révolte et qui se marginalisent aujourd'hui dans des revendications dues à des blessures et à des frustrations. Seigneur, tu as rencontré cette femme et tu veux rencontrer les hommes et les femmes qui vivent ces conditions où ils sont rejetés par la société ambiante, par la morale ambiante, par le système ambiant. Seigneur, toi, tu es au-dessus de tout cela. Et nous voulons te prier pour que chacun et chacune puisse venir vers toi, faire silence et te dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Ma conclusion est pour l'Église, celle que le Christ de l'Apocalypse appelle l'épouse, encore une femme, et que l'Esprit Saint conduit dans l'adoration et la sainteté. À la lumière des versets finaux, dans cette parenthèse de Pentecôte, où la prédication de Philippe dans une ville de Samarie produit un réveil spirituel, je ne puis m'empêcher de paraphraser le poète Aragon. Non, la femme n'est pas seulement l'avenir de l'homme, mais elle est aussi l'avenir de Dieu. Comment ne pas penser que cette ville, qui est remplie de la joie de la prédication et du Saint-Esprit, n'est pas la ville préparée par Jésus avec la Samaritaine et ses habitants une ou deux années avant. J'ai envie de dire, une femme transformée, une ville transformée. C'est probablement ce qui s'est passé quand Philippe est allé prêcher l'évangile à la sortie de la Pentecôte. Et puis, pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Cette ferme promesse de l'espérance que j'aimerais que nous relisions ensemble dans Apocalypse 22, j'ai oublié de te donner les versets, où il est dit, il me montra, c'est le même apôtre Jean de l'Évangile qui est lui-même le transcripteur de la révélation de l'Apocalypse, il me montra un fleuve d'eau vive, de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et au verset 16 et 17, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens. » Que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, sans pesticides ou autres adjuvants chimiques, qui produit 12 récoltes par année, une chaque mois, et dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Ça, c'est une promesse qui est sûre, beaucoup plus sûre que celle de la conférence de la COP26. Alors, en tant qu'Église, levons-nous et disons avec l'Esprit Saint aujourd'hui que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau la prenne gratuitement. Amen.